Louvoz. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, Louvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. C'est bientôt officiel, Monsieur Macron va vous appeler comme Premier ministre, Louis-Marie. Guillaume sera à la culture apparemment. Recherche Premier ministre désespérément, en attendant on va au cinéma.
Oui, allons au cinéma ou restons sur le canapé pour voir quelques films ou bien lire un livre.
Exactement, oui.
Ou bien encore un, oui. Glisser un Blu-ray dans un lecteur quand on en a toujours un.
Oui, pour oublier. Ce monde insipide.
Oui, effectivement. Alors, faites-nous rêver, Laurent.
Alors, je vais vous faire rêver avec 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine, de quoi passer une bonne soirée de cinéma, en attendant des nominations politiques dont on n'a finalement que faire. Et puis, il y aura un petit conseil Blu-ray, comme vous l'avez dit, qui est voilà, un petit classique à revoir ou à découvrir.
Eh bien, nous attendons avec impatience ce que vous allez nous raconter tout à l'heure. Ensuite, avant, quand je dis ensuite, non, il est là, ses admiratrices sont là aussi, vous les entendez crier, on a réussi à les contenir. Guillaume Sidom, ça vous fait du bien d'avoir toutes ces jeunes femmes?
Que de selfies.
Que de selfies, oui. Est-ce que vous donnez des autographes?
Oui, de temps en temps. Mais...
Ah, seulement de temps en temps, pas toujours.
Hein. C'est vrai que la photo dédicacée, ça n'existe plus trop, ça.
Non, à c'est l'époque, fini, c'est fini.
Les cartes postales aussi, ça existe.
Avec des timbres.
Alors, Guillaume Sidom, vous qui êtes notre mécanographe du cinéma dans votre retour de manivelle.
Et puis si j'étais ministre de la Culture, comme dirait Laurent Martin, je réhabiliterais ce film, cette merveille de poésie, de tendresse, un film d'animation plein de trouvailles rythmées, inventives, qui fête ses 30 ans. Et puis à l'occasion, eh bien vous aurez à cette occasion le plaisir de le voir dans les salles obscures.
Ah ben c'est tant mieux ça. Vous nous faites rêver vous aussi. Alors on n'a pas une bonne nouvelle concernant notre homme de loi des séries. Et pour cause, parce qu'il nous a envoyé son petit message comme il le fait à l'accoutumée, mais il s'est coincé dans la boîte aux lettres. Il s'est coincé dans la boîte aux lettres et en se coinçant dans la boîte aux lettres, il a écrasé le fichier. En écrasant le fichier, c'est pas tellement audible. Alors c'est embêtant. Et il était compliqué et difficile pour Grégory Com de nous renvoyer le même message ou même de nous contacter en direct.
Eh bien,
nous écouterons malgré tout un extrait de la bande originale de la série dont il voulait nous parler. Si je vous dis Alice in Borderland, il voulait en parler à l'occasion de la sortie de la saison 3. Donc, je reviens à ce que je dis. Si je vous dis Alice in Borderland, eh bien, vous pensez au manga éponyme, le même titre pour nous, d'Azo Haro. Et donc, un manga, alors là, c'est pas un animé, c'est donc une série avec des acteurs, mais vous savez combien le Japon et la culture nippone passionnent notre Grégory Com, notre avocat.
De la loi des séries.
Notre avocat des séries, c'est le cas de le dire. Là, il n'est pas procureur quand il s'agit de séries japonaises. Ne pouvait que nous parler d'Alice in Borderland. Ce n'est que partie remise. On vous mettra l'eau à la bouche tout à l'heure en écoutant un extrait de la BO. C'est une série qui passe sur Netflix. Et puis, qu'y a-t-il d'autre dans le panier de Louvreuse? Louvreuse va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Il y a plein de choses à dire et plein de choses à voir aussi dans ce que nous proposent ces nouveautés de la semaine. Nous parlons reprise sur le grand écran avant les vôtres, sur le petit. On aura quelques infos à vous donner et puis, et il y aura des coups de cœur parce qu'on a toujours des films, des manifestations et des expositions quand il y en a qu'on a envie que vous alliez voir ou écouter de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée. Allez, comme le veut la coutume, on commence par une projection. Installez-vous confortablement. Le film commence.
Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur.
Oui, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi, tu es dans mon domaine.
Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cryofusion?
Ben, on fonctionne aux piles alcalines.
Oh, attention! Ah, halt, qui va là?
Ne tirez pas, pitié, ami.
Connais-tu ces choses informes?
Oui, ce sont les jouets d'Andy.
Bien sûr, autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix.
Il est Buzz l'éclair et il vient en paix. Mais racontez-nous tout sur cet aventurier intrépide.
Et oui, l'arrivée de Buzz l'éclair sur le lit de la chambre d'Andy, scène culte pour Toy Story, film d'animation non moins culte, signé John Lasseter, sorti sur vos écrans en 1995, musique signée Randy Newman, dont la pépite You've Got a Friend in Me, que vous entendrez à la fin de ma chronique. 30 ans, et oui déjà, le premier volet de la saga Toy Story, premier film entièrement créé en images numériques, fête cette année les 30 ans de sa sortie au cinéma. Pour l'occasion, Buzz, Woody et tous leurs amis vous donnent rendez-vous en version française dans les salles obscures. L'occasion aussi pour tous les parents qui ont grandi avec Toy Story de faire découvrir ce chef-d'œuvre à leurs enfants sur grand écran dans une version totalement restaurée. Toy Story est né d'une collaboration entre les studios Disney et Pixar bien avant que le premier ne rachète le second. Énorme succès au box-office, c'est le tout premier long-métrage animé entièrement réalisé en images de synthèse en 3D. Et il a profondément marqué l'histoire de l'animation, a fait rêver parents, enfants, mais aussi professionnels de l'animation. Un dinosaure vert, un monsieur patate, un cow-boy en plastique, tout à coup, eh bien, ces jouets prennent vie, s'animent devant nous sur grand écran, en 3D donc. Et à l'époque, au moment du film en 1995, le pari est réussi. Faire passer des émotions à travers des jouets, ce sont les aventures de Buzz et Woody, les jouets vivants de Toy Story qui propulsent le studio Pixar au devant de la scène en 1995.
Vous l'avez déjà dit, mais Guillaume Sidom, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma.
Et oui, c'est le premier long métrage entièrement animé par ordinateur, je vous l'ai dit, mais grâce à une équipe aussi de 110 animateurs du studio Pixar donc, et non plus par des dessinateurs, ce sera le premier de l'histoire du cinéma, une révolution technologique donc. L'accueil critique est mitigé, pourtant le film est un succès, 48 millions d'entrées et près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde.
Bah, c'est bien tous ces chiffres, Guillaume Sidom, mais de quoi ça parle?
Eh bien, un jeune garçon de 6 ans ne peut pas tout savoir. C'est ainsi que le jeune Andy ignore que dès qu'il sort de sa chambre, ses jouets mènent leur propre vie et que son préféré, le cowboy Woody, est leur chef. Il ne se doute pas non plus qu'à chaque anniversaire, Zigzag, Monsieur Patate, Rex, Bayonne et Bergère angoissent à l'idée qu'un nouveau jouet ne les concurrence aux yeux de leur jeune maître et ne les relègue au placard. La vie de cette communauté va donc se trouver bouleversée par l'arrivée de Buzz l'éclair, un cosmonaute électronique doté d'un rayon laser, d'ailes rétractables, d'une voix synthétique et d'un système de communication intergalactique. Les deux personnages principaux que sont Woody et Buzz l'éclair nous sont présentés comme rivaux. L'objectif pour l'équipe du film est de produire alors ce qu'on appelle un buddy movie, c'est-à-dire un film de potes, pas vraiment potes pour autant au départ, mais qui par leurs actions vont réussir à gagner le respect de l'autre. Bref, un scénario qui permet de faire passer beaucoup de valeurs et de messages aux plus jeunes spectateurs vers l'infini et au-delà. La phrase phare de Toy Story qui a participé notamment à la renommée du film. Buzz l'éclair est devenu si populaire que sa figurine est même allée dans l'espace. Ici, en 2008, à bord de la navette spatiale Discovery, Buzz, comme Buzz Aldrin, est évidemment le deuxième homme qui a marché sur la Lune. Il est un poil mégalo et très vite, il pique à Woody sa place de jouet préféré. Toy Story nous parle aussi d'une famille monoparentale ou encore du deuil, un thème qui revient régulièrement dans les productions du studio. Ce sont des récits complexes et des objets qui permettent de comprendre le monde ou d'aider à voir des situations que nous, spectateurs, pouvons connaître. Nous pouvons ainsi facilement nous identifier aux personnages. Toy Story est un chef-d'œuvre hein, sur la jalousie, sur la peur d'être remplacé, le changement, et chaque séquence est un moment de bravoure. Et depuis, nous n'avons plus jamais regardé les jouets de la même manière. Toy Story prouve au monde entier que l'on peut, avec des images de synthèse, donner vie au monde des jouets, nous placer à la hauteur des jouets eux-mêmes pour suivre l'histoire et enfin raconter une histoire et provoquer des émotions. Ce film a profondément marqué l'histoire de l'animation et a fait rêver parents, enfants, mais aussi professionnels de l'animation. À retrouver donc ce samedi 11, dimanche 12 octobre à 11h15 au cinéma Pathé Wilson à Toulouse. Également visible au CGR de Blagnac, jeudi 9, vendredi 10 octobre à 11h, samedi 11 à 11h et 13h40, et dimanche 12 à 13h40, également lundi 13 et mardi 14 à 11h, au CGR de Tarbes, ce samedi 11 et dimanche 12 octobre à 11h et 13h30, en Blu-ray et DVD chez Disney Pixar, et puis bien sûr sur Disney+. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Got a friend in me. C'est la chanson de Randy Newman qui avait composé l'intégralité de la bande originale du film. Tout était original dans le film dont vient de vous parler avec talent Guillaume Sidom, et aussi la BO qui n'était pas comme elles étaient jusqu'à présent dans les films d'animation, les films Disney en particulier, et d'autant qu'ils ont fait appel à un musicien de qualité mais qui n'était pas habitué à composer des bandes originales. Ça a donné ce que vous venez d'entendre, entre autres, mais plein d'autres belles choses. En tout cas, ça a permis au film d'avoir ce succès également.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
On passe d'un film d'animation à de l'animation, non. De l'animation, pas de l'animation sur grand écran, pas de l'animation façon dessin animé, mais l'animation que propose Cinespagna à l'occasion de sa 30e édition. Et vous savez que dans quelques minutes, à peu près trois quarts d'heure, Rossi de Palma rencontrera le public, puisque cette année c'est l'invité d'honneur qui va recevoir donc la violette d'honneur qu'attribue depuis 2 ou 3 ans Cinespagna à, je les cite, un acteur, un réalisateur, une actrice, quelqu'un qui qu'ils honorent pour l'ensemble de leur carrière et de leur contribution au rayonnement international du cinéma espagnol. En tout cas, c'est le cas, et c'est sûr, de Rosy de Palma. Alors, vous connaissez Rosy de Palma? Eh bien, elle a baigné dans le mouvement culturel de la Movida madrilène dans les années 80, ce climat de liberté artistique et d'expérimentation très fort en Espagne, parce qu'on était après la fin du franquisme, Franqui,
c'est le gueule de la radio.
Oui, c'est vrai. C'est le franquisme.
Franco
était décédé depuis 1975. L'Espagne respirait, rayonnait autrement. Donc pour en revenir à Rosy de Palma, elle commence par fonder un groupe de pop qui s'appelle Peor Imposible, dans lequel elle chante et danse, et elle travaille en même temps dans un bar à Madrid, un bar fréquenté par Pedro Almodóvar. Un coup de bol, un coup de chance. Ouais. Lui aussi baigné dans cette movida, c'est d'ailleurs ça aussi qui va le faire éclore, et il est frappé par sa beauté particulière, c'est ce qu'il dit, et sa personnalité également, et il lui propose un petit rôle dans La Loi du Désir. C'est le film qui marquera l'entrée de Rosy de Palma au cinéma. Elle deviendra l'une des chicas d'Almodovar, en étant au générique de plusieurs de ses réalisations majeures au cours des années suivantes, en particulier Femme au bord de la crise de nerfs. Oui. C'était en 1988. Puis il y a eu Attache-moi aussi, Kika, ou encore La fleur de mon secret. Mais tout ça, lui ayant mis le pied à l'étrier, a fait d'elle une actrice reconnue, et donc elle va partir travailler, hein, sa carrière va devenir internationale, va partir travailler en France, en Italie et aux États-Unis avec Robert Altman. Elle tournera avec ce maître du cinéma américain dans un film qui s'intitule Prêt-à-porter. De Robert Altman. C'est une figure, c'est le moins qu'on puisse dire, singulière du cinéma contemporain, non seulement pour ses rôles, mais aussi pour ce qu'elle incarne. L'affirmation de soi, la célébration des différences et l'alliance entre le populaire et l'artistique. Et donc ce soir, elle aura droit à 20h à sa violette d'honneur, et puis elle présente en avant-première à 21h30 son dernier film, Dia de Casa de Pedro Aguilera. Dia de Casa, ça veut dire jour de chasse. Ça vous fait penser à rien, ça, Guillaume Sidom? Vous nous en aviez parlé, je crois, le film de Carlos Saura.
La chasse, non.
Ouais, l'histoire de trois hommes qui partaient à la chasse et qui réglaient leur compte. Bien, c'est d'une certaine façon une forme de remake où on déplace l'intrigue en faisant des personnages centraux, non pas des hommes, mais des femmes. Et en tout cas, c'est un film qu'on peut découvrir donc ce soir à 21h30 et qu'on aura l'occasion de voir aussi quand il sortira en France. Il y a parmi tous les cycles que propose Cine España, Mutaciones, les imaginaires du futur du cinéma espagnol. Alors, c'est-à-dire que imaginaire du non-humain, du post-humain, il y aura des cyborgs, des apocalypses, bien sûr. C'est un cycle sur un monde et des corps en changement. Alors, ce que propose Cine España, c'est un voyage à travers la science-fiction espagnole entre Philippe K. Dick, il est toujours là. Ursula Le Guin ou Le Guin, le tout parsemé de George Orwell, encore un, qui est toujours là, lui aussi.
Grand classique.
Les films du cycle se relaient pour tenter, je cite, hein, ce qu'on peut lire dans le programme, pour tenter d'explorer les futurs possibles. Alors, il y aura Apocalypse Zombie, c'est-à-dire le massacre des morts vivants, il y aura The Human Hibernation, Action Mutante, le fameux film d'Alex de la Iglesia, Ouvre les yeux, c'est une histoire de...
C'est le film pour Macron, ça.
Ouais, des mondes virtuels, Daniela Forever, qui est un film assez...
Les oreilles aussi.
Extraordinaire. Donc c'est le cycle qui imagine les futurs possibles, ce décor humain, la pièce Michel qui habite, vous vous souvenez du film
oui, avec Antonio Banderas, oui, très particulier.
Ah oui, le film de Pedro Almodovar, glaçant. Hein. On ne dira rien sur ce que raconte le film, mais on en sort abasourdi. Il y a aussi des corps mécaniques et puis de l'architecture urbaine. Voilà. Il y a plein de choses avec des temps forts comme cette soirée cyborg qui est proposée à la Forêt électrique aujourd'hui. Et vous aurez tout le loisir de passer cette soirée cyborg là-bas, puisque ça dure jusqu'à 22h30. Écoutez-nous jusqu'à 20h, puis foncez là-bas. Vous
mais cyborg, c'est pas un joueur de tennis suédois.
Oui.
Ah, je confonds avec Björn Borg.
C'est un peu tout ça. En tout cas, vous pouvez avoir toutes ces informations et le titre de tous ces films. Donc, il y a Cyborg Generation, je ne vais pas répéter leur titre, mais en tout cas, vous pouvez voir tous ces films grâce à Cinespagna, et le mieux, c'est de se référer à leur programme ou alors aller sur leur site.
Cinespagnol.com.
Exactement, il est très fort.
Il est très fort, un site internet. Hein.
Ah,
c'est un vrai geek.
Il est imbattable. Et je vous propose d'écouter la bande son de ce qui accompagne la bande-annonce de justement ce cycle Mutaciones Cinespagna. Alors le nom de du groupe, de la formation, c'est Oviformia SCI et le groupe Mitele Tipo, et vous comprendrez pourquoi je souris en écoutant la musique. Signaler aussi dans ce cycle Mutaciones une soirée événement consacrée à l'œuvre de la cinéaste et chercheure Gala Hernández, et c'est pour demain soir à partir de 18h au Pâté Wilson, une entrée libre dans la limite des places disponibles. Ce sera une soirée particulière, ça s'intitule Rêve au pluriel de Prométhée, à mi-chemin entre la conférence et la performance. Donc elle va parler de ce qu'elle fait, mais elle va aussi réaliser des choses que vous verrez sur l'écran. Ça promet une soirée un petit peu et forcément hors du commun. Gala Hernández López, demain soir, jeudi 9, 18h, au Pâté Wilson. Laurent, vous scrutez l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse ?
Tout à fait, avec Nouvelle Vague. Non messieurs, c'est pas pour aller surfer, hein, Guillaume, Nouvelle Vague. C'est le nouveau film de Richard Linklater, qui était présent à Cannes en 2025, avec Zoé Deutsch, Guillaume Marbeck et Aubry Dulin. Alors ce film est l'histoire de Godard tournant à bout de souffle, raconté dans le style et l'esprit de Godard tournant à bout de souffle, tout simplement. Alors je rappelle peut-être aux plus jeunes auditeurs, ce qu'est la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague est un mouvement du cinéma français, né à la fin des années 50, qui a marqué le cinéma d'auteur pendant plus d'une dizaine d'années, jusqu'à peu près la fin des années 60. Il rassemble des réalisateurs et des réalisatrices qui ont tourné leur premier long métrage à cette période. Et les figures emblématiques en sont Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain René, l'immense Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. Alors c'est une nouvelle façon de produire, de tourner, de fabriquer des films, hein, qui s'opposent aux traditions et aux corporations. On essayait de sortir du cinéma à papa, hein, comme on disait à l'époque. Alors le Texan Richard Linklater vient à Paris, hein, reconstituer la fabrication d'À bout de souffle, le Godard inaugural qui fit de la nouvelle vague un raz-de-marée, hein, début 60. Il s'agit d'ailleurs du deuxième film de Richard Linklater qui est entièrement tourné à Paris, après Before Sunset en 2004. Alors le réalisateur de Boyhood envisage cette mythologie française comme le prétexte de nouveaux films d'apprentissage, de jeunesse, de première fois. Son talent pour recréer des petites bulles d'espace-temps, hein, dans lesquelles il fait bon vivre, fonctionne ici à plein et se double d'un extraordinaire exercice de style à la manière de un pastiche, hein, 51, consommé sans modération, superbement confectionné, hein, porté par des comédiens irrésistibles qui donnent à cette nouvelle vague des airs de vrais faux films de Godard ou des airs de faux vrais films de Godard, comme vous voudrez, hein, celui des 60s, un peu Prime Sautier, comme ça, un peu fantaisiste. Linklater ambitionne peut-être d'inciter des jeunes cinéastes d'aujourd'hui, hein, à retrouver un peu cette insouciance et l'envie de tout déconstruire, hein, qui agitait Godard et compagnie à l'époque. Alors, on n'a jamais accès à l'intériorité de Godard, hein, qui est constamment planqué derrière ses fameuses lunettes noires et ses aphorismes, et qui restera jusqu'au bout cette silhouette sortie presque d'une bande dessinée, ce qui est d'ailleurs un peu la limite du film, d'ailleurs, je trouve. Mais ce n'est pas l'intention du film, hein, qui se veut pédago, mais cool. Un petit cours d'histoire du cinéma, comme ça, pour rire, et puis en accéléré, comme la visite du Louvre dans Bande à part. À noter que Netflix a acquis les droits pour sortir une nouvelle vague aux États-Unis. La célèbre plateforme de streaming a déboursé quand même la coquette somme de 4 millions de dollars, ce qui représente un record pour un film en langue française et en noir et blanc. Petite revue de presse sur ce film. On sort de nouvelle vague, le cœur léger, et ce n'est pas le moindre mérite d'un film aussi attendu au tournant, lesté des poids considérables du mythe et de l'histoire, selon les cahiers du cinéma. Le Figaro a bien aimé aussi. Richard Linklater filme avec une joie communicative. Sans sombrer dans la reconstitution figée, il parvient à faire revivre cette époque révolue. Critique négative pour Criticat.com, aussi charmant qu'anecdotique. Et puis le Télérama, vous savez, ils ont une rubrique pour et contre. Et dans la rubrique contre, ils disent « Le film ne dépasse pas le stade artificiel de l'imagerie. Aucune étincelle de vérité et de réel troublant. » À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir « C'était mieux demain » de Vinciane, 1000 euros avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. Dans une petite bourgade française, Hélène et Michel et leurs deux enfants coulent des jours heureux dans l'insouciance des années 50. Ils sont soudainement propulsés en 2025, hein, avec ses premiers ministres qui démissionnent, un président absent, une guerre en Ukraine. Le couple découvre un monde moderne, à l'opposé bien sûr de celui qu'ils connaissent, bah, notamment avec les rapports hommes-femmes, hein, qui ont totalement changé depuis les années 50. Louis-Marie, vous êtes parti, vous, dans les années 50, que vous n'avez peut-être jamais quitté d'ailleurs. Je plaisante.
Merci. Vous êtes trop bon.
Mais c'était peut-être mieux qu'avant, finalement. Mon général.
Vous êtes trop bon.
Vous avez rencontré Didier Bourdon et Vinciane Milleroux.
Oui, Vinciane Milleroux, la réalisatrice. Alors vous l'avez dit. Ils font un bond dans le futur, ouais, vont retrouver leur famille. Tout est de la même façon, se présente de la même façon à propos de la famille, de leurs enfants. Ils ont le même âge que quand ils les laissent en 58, mais évidemment avec la façon dont ils ont été élevés jusqu'à ce qu'ils les retrouvent en 2025. Et puis, ce qui est important, c'est que le moment, la façon dont ils partent dans le futur, c'est une électrocution à propos d'une dispute, devant la machine à laver que vient de gagner Hélène et que Michel veut vendre pour acheter un téléviseur.
Ouais, une télévision. Faut appeler Darty dans ces cas-là. Mais ouais.
Comment?
Faut appeler Darty dans ces cas-là.
Oups, là, à l'époque, il savait même pas qu'il était susceptible qu'il existe un jour Darty. Et alors, évidemment, vous l'avez dit, il y en a une pour laquelle ça va être la révolution, et oui, pour l'autre, c'est un cataclysme. C'est tous ces repères d'hommes avec un, oui, H majuscule volent en éclats. Alors, c'est compliqué. Sur le papier, que se passe-t-il? Échappe-t-on au lieu commun, au manichéisme? Justement, c'est à cette question que répond Vinciane Milrow, je vais arriver à le dire.
J'ai essayé de traiter le film sans manichéisme, sans juger, en mettant des nuances et en abordant des sujets de fond, même s'il y a des choses beaucoup plus légères qui me tiennent à cœur, comme l'écologie. Il l'aborde un moment, le personnage. Michel, t'as vu, on n'entend plus rien. L'homosexualité, qui est un sujet qui m'importe énormément. Je voulais vraiment, voilà, que ce soit le parcours de deux personnages, d'un couple qui s'aime et qui va à un moment se déchirer face à une époque avec laquelle ils n'ont pas les codes, mais pouvoir apprendre à se connaître bien. Donc c'est vraiment des chemins initiatiques de chaque personnage. Alors chacun y voit ce qu'il veut. Moi j'ai des retours très très émouvants de femmes qui me disent merci de parler du féminisme. On voulait l'aborder de façon très légère, mais avec une écriture très ciselée.
L'écriture est effectivement très ciselée. Il y a quelques passages assez savoureux quand il découvre tout ce qui s'est passé. Puis l'inversement des rôles, puisque c'est elle qui va travailler dans la banque où lui travaille en 1958, et non seulement elle travaille dans la même banque, mais en plus elle serait son chef. Donc elle a une position de cadre, alors que lui reste à la maison pour s'occuper du foyer.
Mais comment font-il pour appréhender la technologie d'aujourd'hui?
Ah ben justement, c'est ce qui est drôle dans le film, c'est tout ce qu'il découvre, les quiproquos et les téléphones. La première fois qu'il dit un truc, j'ai envie de boire un café, puis il y a Alexia qui dit, le café coule. Et ça marche. Ouais. Alors vous voyez les situations que ça peut engendrer. Alors, est-ce que Didier Bourdon a été séduit par le scénario? On croit bien que oui.
J'ai adoré le scénario, d'ailleurs je l'ai appelé le producteur très vite, parce que tout le monde en prend pour son garde aussi, et puis tout le monde fait un parcours intéressant. La manière de parler de la famille, c'est le plus important, c'est que nos enfants aillent bien, quoi. On soit en 2048, et c'est ce qui m'a plu dans le film. Moi, je me suis inspiré un peu de mon père dans le personnage du début, parce que mon père, bon, c'était aussi dans les années 50, mais moi, je suis né un peu après, mais il y avait ce côté un petit peu, voilà, mais il y avait beaucoup d'amour, mais c'était le côté, bon, tu vas passer ton bac, ceci. Avec ma sœur, cela dit, c'est faux, parce qu'il était plutôt cool avec ma sœur, plus dur avec nous.
Ouais, il était plus dur avec son frère et lui qu'avec leur sœur. Bon, ben, c'est comme ça. En tout cas, Didier Bourdon s'en sort particulièrement bien. Et il faut dire que le couple qu'il forme avec Elsa Zilberstein fonctionne. Ils incarnent tous les deux avec justesse. Et cette complicité, donc ce duo qui est confronté à un monde en pleine mutation. Alors, il y a évidemment de l'humour, de la tendresse. Réflexion. Donc, c'est son premier long métrage, hein, Vinciane Milrow, explore les différences entre passé et présent, bien sûr, vous l'avez dit, Laurent. Et il offre également une portée universelle sur l'évolution des mentalités et des rapports hommes-femmes. À découvrir, un film sans prétention, mais une comédie plutôt bien ficelée.
Qui fait du bien en ce moment.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
En temps de sinistrose politique.
Il a enlevé la bouche, si je puis dire. Petite revue de presse sur ce film. Elsa Zilberstein s'amuse beaucoup dans ce rôle. Et Didier Bourdon a aussi quelques scènes remarquables. On aime, selon Femme Actuelle. Oui, messieurs, je lis Femme Actuelle. Je suis un homme moderne. Elsa Zilberstein et Didier Bourdon ne ménagent pas leurs efforts. Ils nous régalent avec cette comédie formidable, le Parisien. Alors, les Zéro Cupides n'ont pas aimé, dites-donc. Hein.
C'est étonnant.
Alors, je vais vous lire la critique, vous allez me dire si vous comprenez, puis si les auditeurs comprennent, vous m'envoyez un mail. À partir de là, le film peut donner le sentiment de s'écrire tout seul, selon un principe infiniment reproductible consistant à confronter un esprit étriqué à un tapis roulant de petites révolutions alternatives sociétales ou technologiques. Vous avez 2 heures. À l'affiche aussi cette semaine, d'autres choses. Météore, d'Hubert Charuel et Claude Lepape, un film qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors, l'American Cosmographe. Vous connaissez Hubert Charuel, il avait fait quelques années le très bon film Petit Paysan.
Oui.
On le retrouve ici. Berlinguer, la grande ambition d'Andrea Cicré.
Berlinguer. Oui, c'est l'italien.
Ah, c'est italien, d'accord. Je révise un micro. Qu'on peut voir à l'ABC de Toulouse, Alger. Ou Alger, je ne sais pas comment on dit.
Non, là, c'est Alger.
Ah, c'est Alger.
C'est la ville.
De Chakib Taleb Bandia. C'est un thriller algérien, hein, qu'on peut voir au CGR Blagnac. Nos jours sauvages de Vassilis Ketatos. à l'Utopia Bordeaux Rouge de Toulouse. Tron, le film de science-fiction, c'est Tron Ares de Joachim Rønning avec un slash dans le haut, donc il doit être norvégien j'imagine, ou quelque chose comme ça, qu'on peut voir au Patty Wilson et à la Beige, un film d'horreur, hein. On peut voir Good Boy par exemple de Ben Leonberg au CJR Tarbes. Un peu plus intéressant, One to One, John et Yoko, un documentaire de Kevin MacDonald, qui a arrêté de faire des sandwichs apparemment, et Sam Rice Edward. Alors, bah, John et Yoko, bah, c'est une, bien sûr une plongée hein, inédite et émouvante dans l'univers de John Lennon et Yoko Ono. À l'époque, ils étaient dans le Greenwich Village, au début des années 70, et à travers des documents d'archives rarissimes et des images restaurées de leur unique concert entier. Bah, ce film documentaire lève le voile sur l'intimité, l'engagement artistique et politique de ce couple iconique, porté par une bande originale bien sûr formidable, remixée et produite par Sean Lennon. One to One est une expérience assez électrisante hein, qui bouscule les idées reçues et fait redécouvrir leur histoire sur un angle résolument nouveau. Un film que vous pourrez voir par exemple le samedi 11 octobre à 18h au Pathé Wilson, au CGR Blagnac, au Paris Montauban, au Grand Palais à Cahors, au Régent à Saint-Gaudens. Et puis il y aura 4 séances exceptionnelles, le 11 et 12 octobre à l'Utopia Bordeaux Rouge et Tournefeuille, précédé à Bordeaux Rouge du court-métrage de Raymond Depardon, 10 minutes de silence pour John Lennon. Et pour finir, les dernières sorties de la semaine, ce sera pour les tout-petits, Gabi et la Maison Magique, le film d'animation des 3 ans de Ryan Crego. Guillaume, c'est pour vous.
Merci.
Et Super Grand Prix, un film d'animation des 6 ans.
Ah, c'est pas pour moi alors.
Ben aussi, ouais, oui. Vous avez entre 3 et 6 ans. Hein. Ouais, un film de Valdemar Fast, il s'appelle Fast, c'est normal, et son film s'appelle Super Grand Prix, donc tout est logique. On peut voir ça au Régent Saint-Gaudens.
Il fallait bien passer cette chanson emblématique qu'on entend bien évidemment dans One to One, John et Yoko, le documentaire de Kevin MacDonald et Sam Rice Edward. Imagine, qui reste toujours d'actualité. Et oui, on peut toujours imaginer que tout se passera bien. Et ça serait bien que ça se passe bien. Hein. Merci, John.
Je déclare l'audience ouverte.
Ben non, il est pas là. Il est pas là, on vous a expliqué pourquoi. Petit problème technique. On vous a dit qu'on vous passerait un bout de la bande originale, alors on va passer ce bout de bande originale en vous disant qu'Alice in Borderland est une série télévisée japonaise qui est passée donc sur Netflix, qui a commencé en 2020, et là il va y avoir la saison 3 qui va sortir, et c'est basé sur le manga éponyme d'Azo Haro, et c'est une série qui met en vedette Kento Yamazaki, et qui raconte l'histoire d'Arisu. Kento Yamazaki, c'est l'acteur, bien sûr, et qui raconte l'histoire d'Arisu, qui, avec ses deux meilleurs amis, est mystérieusement téléporté dans un Japon parallèle. Ah, et oui, mais le problème, c'est que dans cette nouvelle réalité, ils devront jouer à des jeux dangereux, violents, et mortel pour survivre. Ça a bien marché, et la musique, eh bien, elle est signée, que je ne me trompe pas, Yutaka Yamada, et vous en saurez beaucoup plus la semaine prochaine quand notre homme de loi des séries aura révisé son petit envoi postal. Vous avez reconnu le compositeur de cette musique qui n'est pas sans rappeler de ces musiques d'opéra, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est en partie le sujet du film. Ce compositeur, c'est bien évidemment Ennio Morricone, et pour qui, encore une fois, Giuseppe Tornatore, parce que je dis encore une fois, nous en parlions la semaine dernière à propos de Cinema Paradiso, oui. Et le revoilà dans Ils vont tous bien. C'est nos amis de Vive le cinéma à Muret qui proposent justement cette série sur Giuseppe Tornatore. C'est, il faut aller au VO de Muret dimanche prochain, 12 octobre à 18h10, pour découvrir ce film qui met en scène Matteo Scuro, un retraité veuf sicilien qui était autrefois employé au service de l'état civil d'une mairie. Et grand amateur d'opéra, il a choisi pour le prénom de chacun de ses 5 enfants vivant aux 4 coins de l'Italie, enfin 4 coins d'Italie sont 5, il faudrait un 5e coin, mais peu importe, le nom d'un héros ou héroïne d'opéra. Donc il y en a une qui s'appelle Tosca, à cause de Tosca de Giacomo Puccini, un autre qui s'appelle Canio, à cause de Pagliacci de Ruggero Leon Cavaballo, Norma, évidemment, à cause de Norma de Vincenzo Bellini, Guillaume, Bah, c'est Guillaume Tell, hein, de Gioacchino Rossini. Vous voyez que ah, il en manque un. Alvard, lui, c'est la Forza del Destino de Giuseppe Verdi. Voilà. Comment s'appellent ses enfants? Alors, bah, il s'est vraiment pas bien occupé d'eux et il décide un jour de les inviter pour les prochaines vacances d'été. Évidemment, vous vous doutez de ce qui se passe. Chacun d'entre eux, avec de bonnes raisons à l'appui, décline l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis, le vieux monsieur? Eh ben, il va aller les voir les uns après les autres. Donc, on va aller avec lui à Naples, à Rome, à Florence, à Milan et à Turin. Quand je vous aurais dit que ben, ce vieux bonhomme, c'est Marcello Mastroianni,
oui.
Alors, et que dans le train, il va rencontrer Michel Morgan.
Ah bah oui.
Bah ouais. Mm-hmm. Et puis, il y a ces acteurs formidables qui jouent le rôle de chacun de ces cinq enfants. Un film à découvrir assez exceptionnel qui a eu un succès important puisqu'il était en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes en 90 et il remporte le prix du jury œcuménique. Et d'ailleurs, le film a tellement plu qu'il y a eu un remake d'un Britannique qui s'appelle Kirk Jones et qui s'intitule Everybody's Fine. C'est la traduction littérale de « Ils vont tous bien ». Et c'est Robert De Niro qui reprend le rôle de Marcello Mastroianni.
D'accord. Ben, ah ouais.
On aime De Niro, mais dans un film italien, c'est Marcello.
Ah bah oui.
Bah oui. Il n'y en a qu'un. « Ils vont tous bien », Giuseppe Tornatore, dimanche 12 octobre à 18h10, au VO de Muret. Et puis, vous le savez... à l'American Cosmographe, il y a toujours Kenji Misumi, ce fameux réalisateur qui est spécialiste des films de sabre et qui a à son actif plus de 60 films pour une carrière d'à peine 20 ans. Donc, à découvrir. Et puis, au CGR de Rodez, c'est toujours la programmation Agnès Varda. Tous les jours, un film jusqu'au 4 janvier 2026. Ce mois-ci, on peut découvrir deux documentaires d'Agnès Varda. Documenteur et Ulysse, bah voilà pour les reprises sur le grand écran. Ah si, il faut que je vous dise qu'à la galaxie Jaoui, il y a Sourire d'une nuit d'été. Ça c'est important, hein. Sourire d'une nuit d'été, c'est un film qui est proposé donc dans le programme de Agnès Jaoui, un film d'Irmar Berman de 1955. Et puis, dans la série Remake, vous pourrez voir Driver, le film de Walter Hill de 77, le film qui a inspiré...
Drive.
Évidemment.
Et pour Galaxy Jaoui, vous pouvez gagner vos places, cinéma@radioprésence.com.
Voilà. Alors là, c'était important de parler de la Cinémathèque. Foncez voir ces films. Il y a un ciné-concert aussi qu'il vous propose. Il faut pas rater tout ça. Cinémathèque, Pathé Wilson ou aux abattoirs. Allez, c'est vous, Laurent, pour le petit écran.
Le cinéma à la télévision garantie sans démission. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec tout de suite, maintenant, de Pascal Bonitzer avec Isabelle Huppert et Lambert Wilson. L'histoire de Nora qui obtient un poste dans une prestigieuse société financière. Elle est prête à faire ses preuves et à gravir les échelons, mais elle se rend compte que tout ne sera pas aussi simple. Une satire incisive du petit monde de la finance avec de très bons acteurs. Vendredi, France 5, 21h, l'histoire d'Adèle H. de François Truffaut, un film de 1975 avec l'admirable Isabelle Adjani. Alors que Victor Hugo et sa famille vivent en exil à Guernesey, sa fille cadette, Adèle, une jeune femme sensible et rêveuse, croise le chemin du lieutenant Pinson, qui n'est pas gay. Ce dernier tombe amoureux d'Adèle et dans ce mélodrame poignant, François Truffaut capture avec une sensibilité rare la descente aux enfers d'Adèle Hugo, portée par une Isabelle Adjani sublime. Samedi sur France 4, 21h, The End of Violence de Wim Wenders avec Bill Pullman et Andy McDowell. L'histoire de Mike, un producteur de films d'action à succès qui règne en maître sur son univers cinématographique. Et pourtant, derrière les cascades et les scènes à couper le souffle, ben, sa vie personnelle commence à se fissurer entre drame intimiste et thriller captivant. The End of Violence marie une esthétique visuelle raffinée et une mise en scène soignée. Dimanche, France 2, 21h10, sur Les Chemins Noirs de Denis Imbert. avec Jean Dujardin, une histoire de Pierre, un écrivain voyageur qui entreprend péniblement une ascension en montagne. L'homme se souvient de ce qui l'a amené ici. Une adaptation réussie hein, du récit de Sylvain Tesson avec des paysages magnifiques. Et puis lundi, Arte 20h55, on pourra revoir Veracruz, un film de 1954 de Robert Aldrich avec Gary Cooper et Burt Lancaster, une fameuse histoire de chasse au trésor, un western audacieux et flamboyant, porté par une distribution exceptionnelle. Le conseil Blu-ray, ce sera Abattoir 5, ou Abattoir 5, hein, de George Roy Hill, le chef-d'œuvre de la science-fiction, hein, d'après le classique de Kurt Vonnegut, pour la première fois en Blu-ray. Hein. C'est l'histoire de Billy, hein, dont la conduite inquiète de plus en plus ses proches. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale affirme avoir la faculté de voyager dans le temps et l'espace.
Ça doit être chez Carlotta.
Chez Carlotta, exactement. Vous avez gagné. Voilà. Pour 20 euros.
Gagner un DVD.
Pour 20 euros, vous retrouverez ce magnifique bourré. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Vers l'infini et au-delà!
Nous amener tranquillement à 20h, il fallait bien Count Basie, être dans l'ambiance des années 50, la fin des années 50, puisque À bout de souffle est sorti en 1960. Néanmoins, c'est dans cette musique qu'on baignait à l'époque. Count Basie, donc, et le morceau s'appelle Splunky. Infos à noter sur vos agendas. L'avant-première vendredi 10 octobre à 20h30 de L'Inconnu de la Grande Arche, le film de Stéphane de Moustier, en sa présence. Et ça se passe à l'ABC à Toulouse. Et à l'ABC à Toulouse aussi, il y en a beaucoup des festivals en ce moment. Vous savez qu'il y a ce soir commence Polaris. Nos amis de l'Union, Castelmoroux et Saint-Géniès ont organisé un festival qui réunit les trois cinémas de chacune de ces petites villes. Et puis il y a aussi Fred, le festival international du film d'environnement. Et donc demain, avant-première à 20h30 d'Amour Apocalypse, Dan Aymon. Je vais y arriver. Allez, un petit mot sur le box-office. En tête cette semaine, comme la semaine dernière, une bataille après l'autre. Toujours à attirer les spectateurs. 307 000 entrées en une semaine et se place à, donc je le disais, à la première place. Et cumule 742 000 entrées. Et juste derrière, Un simple accident qui fait 222 000 entrées. Vient Demon Slayer qui continue à attirer les foules. 175 000 entrées, 1 505 000 entrées cumulées. C'est vous dire si l'animé attire les spectateurs et les spectateurs entre 15 et 25 ans. C'est ces fameuses trois notes pour conclure le morceau, c'est ce qu'on aime, le morceau lui-même et ce final. Tiens, juste les premières mesures avant qu'on vous donne nos coups de cœur d'une chanson typiquement italienne, interprétée par Pierangelo Bertoli et Pure Sofia, qu'on peut entendre évidemment dans Berlinguer, La Grande Ambition. Ça se passait dans les années 70, 76.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba.
L'histoire donc d'Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti communiste italien, qui redoubla d'efforts pour établir un compromis historique avec la démocratie chrétienne. En 73, les services secrets bulgares voulaient l'assassiner. Eh oui. Allez messieurs, nos coups de cœur, les vôtres d'abord.
Les coups de cœur, ce sera pour Nouvelle Vague, C'était mieux demain et Tron.
Nouvelle Vague, C'était mieux demain, One to One, Yoko et John Yoko, pardon. Ciné Espagnol jusqu'au 12 octobre, toute la programmation sur cinéespagnol.com. Polaris qui commence aujourd'hui jusqu'au mardi 14 octobre. Retrouvez toute la programmation sur festival-polaris.fr.
Et pour ma part, ce sera Nouvelle Vague de Linklater, un access site à C'était mieux demain de Vinciane Milrault. Ciné Espagnol évidemment jusqu'au 12 octobre. Il y a tellement de belles choses à voir, redécouvrir Lennon et Yoko Ono dans One to One, et puis Polaris pour aller un petit peu sur les coteaux là-haut, les coteaux de Bellevue. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée à tous, à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse avec Franck Lubet de la Cinémathèque pour parler de la galaxie Jaoui. Dans quelques minutes à 20h, vous retrouverez en direct la messe de rentrée de la paroisse étudiante de Toulouse depuis la cathédrale Saint-Étienne. Bonne soirée à vous.
Accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église, Parole d'auteur, la conférence de la semaine, des clés pour vivre,
Présence.
Toutes ces émissions.